Bonjour mesdames, messieurs, bienvenue à l'émission Regard sur le monde. Diane Felice, Michel Poulet au micro pour vous apporter de l'éclairage, de l'information sur ce qui se passe au niveau de la déficience visuelle. On se veut une émission fédérative, information générale, entrevue avec des organismes et des entrevues un peu plus humaines avec des gens qui sont concernés par la déficience visuelle. Alors Diane, vous allez recevoir une invitée dans le courant de notre émission aujourd'hui.
Oui, aujourd'hui nous allons recevoir Madame Claudia Nigrelli, une femme pétillante et rayonnante.
Et de mon côté, je vais recevoir Madame Christine Letendre, qui est directrice adjointe du RAM. Alors on va savoir qu'est-ce que c'est que le RAM exactement. Dans le cadre de Regards sur le monde, à chaque semaine, nous aurons un bulletin d'information où vous aurez l'occasion d'entendre toutes sortes de nouvelles sur ce qui se passe au niveau de la déficience visuelle, et ça un peu partout au Québec. Alors, entre autres, la direction régionale de Longueuil de la Commission des normes de l'équité, de la santé et de la sécurité du travail, ce qu'on appelait l'ancienne CSST, est très fier de souligner que l'école Jacques Ouellette de Longueuil a reçu le prix Éducation à la prévention lors du 13e gala national des Grands Prix Santé et Sécurité du Travail. L'entreprise du tri, de déchiquetage et de compactage de papier confidentiel est active à l'intérieur de l'école Jacques Ouellette, un établissement scolaire spécialisé dans l'enseignement auprès des jeunes de 15 à 21 ans ayant une déficience visuelle. Ces élèves stagiaires qui vivent une expérience réelle de travail sont exposés à plusieurs risques, notamment à des chutes, à des mouvements répétitifs et à des efforts excessifs, en plus des problèmes liés à leurs conditions visuelles. Ainsi, les élèves, les enseignants et la direction de l'école ont fait équipe pour repérer, corriger et contrôler les dangers. Alors, entre autres, on a procédé à l'installation d'une balustrade de protection autour de la presse hydraulique, la mise en place de protections en mousse sur les rebords de cette presse pour éviter de se cogner la tête, ainsi que l'ajout d'un panneau de commande en braille. Ne sont que quelques adaptations physiques ajustées sur leur machine. Et très rapidement, je vais absolument vous parler de ça, le comité exécutif de la Ville de Montréal a approuvé 57 nouveaux projets dans le cadre de son programme Montréal Amis des aînés. Alors, pour cette troisième phase du programme, la Ville va verser 8,7 millions répartis à 15 arrondissements qui ont déposé des projets. Il y en a, entre autres, à Côte-des-Neiges. Alors, tous ces projets-là vont faciliter l'accessibilité pour les gens qui sont en déficience visuelle. Et il y a un nouveau sondage qui a été commandé par la Société canadienne d'ophtalmologie qui révèle que la majorité des Canadiens, 59%, présentent des symptômes de maladies oculaires potentielles, mais que seulement la moitié d'entre eux, 54%, déclarent avoir consulté un professionnel de la santé. Alors, on dit qu'il y a une fausse conception qui veut que les examens oculaires servent uniquement à corriger la vue, alors qu'ils sont également essentiels pour la santé globale de l'œil. Alors voilà, qu'on se le tienne pour dit. Dans le cadre de notre émission Regards sur le monde, nous aurons à chaque semaine l'occasion de connaître un peu plus une organisation qui œuvre dans le monde de la déficience visuelle. Et pour cette première émission, je pense qu'il était de mise de recevoir les gens du RAM, qui est le regroupement des aveugles et amblyopes de Montréal. On reçoit Mme Christine Letendre, qui est directrice adjointe pour le RAM. Bonjour Mme Letendre.
Bonjour Monsieur Poulin.
Là, vous allez nous expliquer qu'est-ce que c'est que le RAM.
Bien, vous avez déjà commencé en disant que c'était le regroupement des aveugles et amblyopes du Montréal métropolitain.
Qu'est-ce qu'on veut dire par amblyope?
Amblyope, c'est une personne qui a une déficience visuelle, un handicap visuel, mais qui a un résidu visuel. En fait, on pourrait le traduire par malvoyant.
Ou basse vision, peut-être?
Oui, effectivement.
Ah, d'accord.
Donc, c'est ça. Donc, vous avez bien fait de commencer par préciser notre acronyme, parce que comme tous les organismes ou de nombreux organismes dans le milieu communautaire, le RAM a son propre acronyme et on se demande parfois qu'est-ce que c'est. Donc, le RAM, c'est un organisme communautaire qui travaille en défense collective des droits. Sa mission, c'est de promouvoir les intérêts, encourager l'inclusion sociale et défendre les droits collectifs et individuels des personnes qui ont une limitation visuelle du Montréal métropolitain. Donc, on parle du territoire couvert par le Grand Montréal, Montréal, Laval et une partie de la Montérégie de la Rive-Sud, donc Longueuil et les environs. Puis, tout ça, c'est dans le but de favoriser la pleine et entière participation des personnes handicapées visuelles.
Donc, est-ce qu'on peut dire que vous êtes revendicateur dans le sens de, par exemple, pour l'accès public ou ces choses-là?
Ben oui, on peut le dire. En fait, avoir une revendication, c'est juste demander, savoir qu'est-ce qu'on demande. C'est d'aller dire, ben écoutez, on estime que tel élément, c'est essentiel, c'est indispensable pour la participation citoyenne des personnes handicapées visuelles. Donc, on va aller le réclamer. C'est sûr que ces revendications-là aussi se font souvent dans le cadre de travail, je dirais, de collaboration. On va travailler sur plusieurs tables de concertation, sur plusieurs comités. Et puis, ce travail-là se fait pas toujours... c'est pas toujours en brandissant des pancartes. Il y a un gros, gros travail en amont qui est fait en collaboration, en concertation. Mais c'est sûr que parfois, la mobilisation, la manifestation peut devenir nécessaire dans certains dossiers.
C'est ce qu'on voit, en tout cas.
Oui, effectivement.
Le travail en sourdine, parfois, justement, il est en sourdine.
Oui, et c'est un travail qui est un petit peu plus invisible pour les gens qui gravitent pas nécessairement directement autour du RAM. C'est sûr que, comme je disais, notre mission principale, c'est la défense collective des droits. Donc, on va aller siéger sur des tables de concertation, des comités de travail. On a aussi des comités de travail à l'interne auxquels les membres peuvent participer. Ces comités-là peuvent être, par exemple, appelés à écrire, rédiger une plateforme de revendication. On en a une sur l'accès à l'information. On en a une aussi sur l'aménagement extérieur. Donc, les membres vont identifier quels sont les besoins et vont rédiger cette plateforme de revendication-là. Donc, c'est un outil aussi qui nous permet de parler d'une même voix, d'avoir un discours cohérent. Et c'est un outil aussi de sensibilisation qu'on peut remettre facilement à différentes instances qu'on va rencontrer sur des dossiers.
Et c'est la force d'un groupe, finalement,
oui.
qui fait. Maintenant, ça part d'où, le RAM? Quel est l'historique de cet organisme?
En fait, le RAM a été fondé en 1981, mais il ne s'appelait pas le RAM à cette époque-là, il s'appelait le RAC Section Montréal, parce que le regroupement des aveugles et amblyopes du Québec était, lui, déjà fondé depuis à peu près 1975. C'est un groupe de jeunes handicapés visuels dans la région de Montréal qui ont décidé de fonder le RAC Section Montréal. En fait, ils étaient en train d'entrer sur le marché du travail et ils étaient confrontés à de sérieux problèmes dans le domaine du transport en commun. Donc, un problème collectif demande aussi une action collective pour obtenir des résultats. Donc, c'est pour parvenir à ça, en fait, pour identifier puis régler les problèmes qui étaient vécus collectivement par ces jeunes-là, qu'ils se sont regroupés pour fonder le RAC Section Montréal. Le RAC Section Montréal est devenu le RAM par après au début des années 90.
Et cet organisme-là, vous touchez définitivement à des... Vous avez des résultantes, vous avez dû vivre des grandes victoires parce que notre société aujourd'hui, je pense, en tout cas qu'on est un peu plus inclusif. J'imagine qu'il y a des grandes histoires de réussite.
On sait que pour les organismes communautaires, des fois, les luttes sont de longue haleine. Mm-hmm. Mais oui, il y a eu des gains. Je peux vous en nommer quelques-uns. Il y a d'abord, par exemple, les annonces verbales et les tuiles avertissantes dans le métro. Aujourd'hui, on n'imaginerait plus le métro
oui, effectivement,
sans cette annonce.
C'est dans nos habitudes maintenant.
Oui, mais on n'imaginerait plus le métro sans cette annonce-là. Et donc, ça a été des luttes de longue haleine qui ont permis d'obtenir ça. Et l'annonce verbale aujourd'hui dans le métro, elle est utilisée par tout le monde. Elle
Absolument.
Sert à tout le monde.
Et c'est le RAM ou le RAC à l'époque qui oui. avait fait cette revendication.
Oui. En fait, ça a été un travail du RAM et de plusieurs organismes, en fait, de concertation pour faire ces revendications-là. Plus récemment aussi, on a obtenu des feux sonores sur la rive sud qui étaient demandés depuis à peu près une dizaine d'années. Ça a bougé. Il y a effectivement un travail de concertation qui se fait là, mais il y a aussi une manifestation. Les membres de la rive sud se sont mobilisés et il y a des feux sonores qui ont été obtenus, qu'on attendait déjà depuis très, très longtemps. Il y en a d'autres qui sont attendus, il y en a d'autres qui vont venir, mais c'est un gain qui est plus récent. Parmi ça aussi, il y a eu le décret de la RAMQ qui a donné accès à plusieurs aides adaptées. Avant, ce n'était pas possible. Dans les années 80, c'était juste les personnes en bas de 35 ans qui avaient droit à des aides à condition d'être aux études ou travailleurs.
Seulement. Pour les gens de plus de 35 ans?
Non, ce n'était pas possible. Il n'y avait pas cette aide-là. Donc, il y a le décret de la RAMQ. Il y a aussi des réalisations du RAM qui ne sont pas nécessairement reliées à des dossiers de défense collective des droits, mais qui sont quand même notables. Par exemple, le RAM a un service d'aide bénévole. Le RAM a mis en place certains services pour pallier au handicap, c'est-à-dire, par exemple, bon, comme je disais, le service d'aide bénévole. Nous avons des bénévoles qui sont spécialement formés pour être guides accompagnateurs. Les membres peuvent faire une demande et là, la personne bénévole va l'accompagner, par exemple, pour faire des courses, pour un rendez-vous médical, pour des sorties de loisirs ou lire le courrier. Des choses comme ça. Ça, c'est quand même quelque chose qui est important à noter aussi au RAM. L'année dernière, on a fini l'année avec 91 bénévoles actifs et ces bénévoles-là ont donné 3 000 heures de bénévolat dans l'année. C'est pas rien, là, 3000 heures. C'est 57 heures à peu près en moyenne par semaine.
C'est absolument incroyable et on va y revenir parce qu'on va faire, Madame Letendre, une petite pause musicale, le temps de reprendre notre souffle, et on vous revient dans quelques instants.
Look at me, I'm as helpless as a kitten up a tree, and I feel like I'm clinging to a cloud I can't understand. I get misty just holding your walk my way, and a thousand violins begin to play, or it might be the sound of your hello, that music I hear. I get misty the moment you're near. Can't you see that you're leading me on? And it's just what I want you to do. Don't you notice how hopelessly I'm lost? That's why I'm following. My right foot from my left, my hat from my glove. I'm too misty and too much in love. Too misty and too
de retour à Regard sur le monde sur Canal M et nous sommes en compagnie de Mme Christine Letendre qui est directrice adjointe au regroupement des aveugles et amblyopes de Montréal. Mme Letendre, juste avant la pause musicale, vous nous avez parlé de bénévolat. C'est hallucinant. Vous parlez de 91 personnes l'an dernier qui ont fait 3000 heures de bénévolat?
C'est exact. Effectivement, c'est impressionnant. 91 bénévoles actifs qui ont donné 3000 heures de bénévolat. Et ça a répondu aux besoins de 70 membres utilisateurs du RAM. Donc, 65 membres individuels et 5 organismes aussi. Et ces bénévoles-là aussi vont répondre aux besoins du RAM lui-même. Parce qu'on a une activité, en fait, on a une programmation d'activités de groupe. Et pour que ces activités-là aussi puissent bien se dérouler, par exemple les brunchs conférences, tout ça, il y a des bénévoles qui vont venir nous épauler pendant ces activités-là. Donc, les bénévoles répondent aussi aux besoins du RAM lui-même pour le bon fonctionnement de notre programmation d'activités.
Vous brisez l'isolement, parce que souvent, les personnes en déficience visuelle s'isolent et vous jouez un rôle majeur de ce côté-là.
Effectivement, ça fait déjà 20 ans qu'on offre des activités de groupe à la salle Bertréaume. Ces activités-là, en fait, permettent aux gens d'être en contact avec d'autres personnes qui vivent un handicap visuel.
Quel genre d'activité
on a à l'occasion des cours et ateliers? Par exemple, un atelier de cuisine collective. Cet atelier-là est animé par ma collègue Josée, qui vit elle-même avec un handicap visuel. Et là, on a un petit groupe, et ensemble, ils vont cuisiner des plats autour d'une thématique. Par exemple, on peut avoir une session, ça va être la thématique des légumineuses, ou une autre session, ça va être la thématique de la volaille. Et là, les gens vont cuisiner ensemble des plats. Ils vont repartir chacun avec leur portion.
Et dans ces ateliers, les gens apprennent à fonctionner je vous dirais normalement, si je peux m'exprimer ainsi, ils sont en groupe et les gens apprennent à fonctionner et à atteindre une autonomie.
Tout à fait. On a, l'année dernière, fait une petite démarche d'évaluation autour de cet atelier-là et il y a une des membres participantes qui nous a dit au cours du dîner bilan qu'on avait fait à la fin d'une des sessions, elle disait « Maintenant, c'est aussi normal ou aussi facile de cuisiner qu'avant la perte de vision. » Et c'est ici que j'ai appris ça. Elle disait même, ma belle-sœur est venue chez nous l'autre fois, puis elle m'a vu cuisiner, puis elle n'en revenait pas de me voir aller dans une cuisine. Donc, cette personne-là a acquis cette confiance-là et a retrouvé des mécanismes, des réflexes cuisine dans l'atelier. Donc, c'est une des activités qu'on va offrir. On va avoir aussi des brunch conférences. Le premier mardi du mois, où là, on va avoir un organisme, par exemple, qui va venir présenter sa mission ou ses services, où on peut le faire aussi sur différentes thématiques, différents enjeux. On a l'occasion, on a une nouveauté aussi à la programmation. C'est le premier vendredi du mois, c'est le vendredi jason technologie.
En fait, j'imagine que la technologie est venue révolutionner le monde de la déficience visuelle en quelque part.
Il y a un moment où, il y avait une révolution, il y avait un monde de possibilités, l'information était disponible, tout s'ouvrait aux personnes. Mais là, ça devient de plus en plus difficile. La technologie évolue vite, avance vite. Puis dans des domaines aussi banals que, par exemple, une laveuse-sécheuse, ben, on est confronté à des défis dans la mesure où tout devient des panneaux électroniques avec des boutons, pas de repères, tout ça. Donc la technologie, oui, a apporté du bon, mais elle avance très, très vite et elle avance plus vite qu'elle s'adapte.
Toute la question aussi, là, parce que les boutons, on en a de moins en moins, mm-hmm. C'est sensible au toucher et tout ça. C'est un défi pour les personnes en déficience visuelle.
Effectivement.
Je pense, par exemple, à ce qui est arrivé avec les guichets automatiques.
Mm-hmm.
Entre autres, le RAM a fait des revendications dans ce sens-là.
Le RAM est sorti publiquement pour parler de ce dossier-là. En fait, c'est que la synthèse vocale, en fait, les bips puis la synthèse vocale mm-hmm. qui avait été installée sur les terminaux de vente automatique de billets de la STM, ça avait pris de nombreuses années. Et là, il y a des changements qui doivent être faits. Les claviers bancaires doivent être changés et le bip n'est plus là. Donc, ça constitue, à notre avis, un recul. Et on voulait surtout s'assurer que ce ne serait pas laissé comme ça. On a attendu quand même de nombreuses années pour avoir la synthèse vocale sur ces terminaux-là. Et il ne fallait pas non plus laisser filer les choses comme ça puis dire, on retourne en arrière et finalement, ce n'est plus disponible.
Donc, la technologie ne règle pas tout.
Non.
Et peut même amener d'autres problématiques.
Effectivement.
Est-ce que la clientèle a changé au fil des années?
La clientèle, en fait, au départ, au RAM, on ne parle pas de clientèle. On parle de membres. Parce qu'on est un organisme communautaire avec une vie associative. Les membres peuvent participer à des comités de travail, vont s'impliquer à l'Assemblée générale annuelle. Ils ont leur mot à dire. Donc, on ne parle pas au RAM de clientèle, on parle de membership.
Merci de me ramener à l'ordre.
Bien, ça me fait plaisir. C'est une nuance qui est quand même importante pour nous. Donc, oui, effectivement, le membership a changé au fil du temps. Quand je vous parlais au départ des membres fondateurs du RAM qui étaient des jeunes qui entraient sur le marché du travail, mais aujourd'hui, la majorité des membres, pas exclusivement, mais quand même une bonne partie de nos membres sont des personnes âgées qui sont confrontées depuis peu au handicap visuel et qui sont à la recherche d'outils et de services pour maintenir leur autonomie, pour maintenir une vie active. Donc, on n'est plus nécessairement dans la même dynamique de jeunes revendicateurs comme c'était à l'époque. Et là, aujourd'hui, c'est différent. Mais quand même, c'est différent, mais quand même, on fait le constat que les membres participent quand même beaucoup au RAM. On a décidé cette année de faire ce calcul-là, de voir, en comptant les membres qui participent aux instances, par exemple, l'Assemblée générale annuelle, qui vont participer au comité de travail, qui vont participer à une ou plusieurs activités offertes ou qui vont utiliser le service d'aide bénévole du RAM, on a calculé tous ces gens-là pour en enlever les doublons, parce qu'il y en a qui viennent aux activités puis qui utilisent aussi le service d'aide bénévole. On a réalisé qu'on a un taux de participation des membres de un petit peu plus que 55 %.
C'est énorme.
C'est énorme. C'est donc énorme. Dire que plus d'un membre sur deux au RAM est en contact direct avec l'organisme d'une façon ou d'une autre, soit à travers les services, soit à travers la vie associative. Mais on était très heureux de faire ce constat-là. On en était très fiers.
Et j'imagine que ça se maintient. cette statistique se maintient?
Bien, en fait, celle-là, c'est la première fois qu'on la calculait. On avait fait des calculs individuels, par exemple, pour les activités, pour le SAB, pour le service d'aide bénévole, mais on n'avait jamais fait ce calcul-là global. On va le faire à l'avenir pour faire des constats, voir si ça augmente ou ça diminue. Mais je dirais, au niveau du membership, c'est relativement stable d'une année à l'autre.
Madame Le Tendre, on a parlé de certains éléments, certains projets, certaines réalisations que le RAM a fait. On va se projeter un petit peu dans l'avenir. Quels sont les principaux projets que votre organisme mène en priorité actuellement?
Actuellement, on a un projet important qui s'appelle « Changement social pour un web accessible », qui est en cours. On travaille beaucoup sur la question de l'accessibilité de l'information et notamment de l'accessibilité du web. Comme on le disait tantôt, la technologie évolue, ça avance très vite. Et il y a beaucoup d'organismes publics, parapublics, d'entreprises qui vont surtout référer les gens au web. Vous allez voir notre site web. Tout est là sur le web.
Effectivement.
Mais si le site web est mal conçu et pas accessible...
Pas adapté,
pas accessible, c'est que les personnes handicapées visuelles, à ce moment-là, n'ont pas accès à toutes ces informations-là et ça constitue un important problème. Donc, on travaille notamment sur ce dossier-là. À travers ce projet-là, on a des membres et des bénévoles qui vont faire des tests d'accessibilité de sites web. Les sites ont été identifiés notamment par les membres du RAM, parce qu'on veut aussi s'intéresser d'abord aux sites que les gens veulent utiliser ou utilisent, ou du moins souhaitent utiliser de façon plus optimale. Donc, il y aura des tests d'accessibilité qui vont être faits là-dessus. Les tests d'accessibilité aussi, ça va nous permettre de faire un répertoire, peut-être un peu à l'image des palmarès de la revue Protégez-vous. Quels sont les sites bien accessibles? Quels sont les sites qui ne le sont pas? Et à partir de là, on va pouvoir faire aussi des représentations auprès des gestionnaires et des responsables de sites web pour les sensibiliser à l'accessibilité du web, leur faire comprendre que, par exemple, pour les entreprises, c'est une part de marché qui est perdue.
Absolument.
Si on ne s'adresse pas aux personnes handicapées visuelles. Oui. Pour le gouvernement, les sites municipaux, c'est une participation citoyenne qu'on ne favorise pas.
Est-ce que vous me dites que les sites des gouvernements et les sites municipaux, la majorité ne sont pas adaptés?
Je ne peux pas dire que la majorité ne le sont pas. Moi, je n'ai pas les statistiques. Ce que je peux vous dire, c'est qu'il y en a qui ne le sont pas.
D'accord.
Et ça pose un problème.
Absolument.
Surtout que le gouvernement a instauré une norme et il faudrait au moins qu'elle soit respectée par le gouvernement lui-même.
Oui, d'accord.
Mais ce n'est pas toujours le cas. On constate, par exemple, dans le domaine de la santé, qu'il y a de plus en plus aussi recours au web. Il va y avoir des sites web pour s'inscrire... Pour avoir
un médecin.
Oui, un médecin, un rendez-vous, tout ça. Si les sites ne sont pas adaptés, c'est les personnes handicapées visuelles aussi qui vont passer à côté de tous ces services-là. Puis, on se tourne de plus en plus vers le web, donc c'est important d'agir à ce niveau-là.
Quel est le plan d'action, sans dévoiler de secret, mais quel est le plan d'action que vous avez?
Je vais vous inviter à venir à l'Assemblée générale annuelle. Ça va nous faire plaisir de vous présenter le plan d'action. Mais je dirais que la question de l'accessibilité du web est au cœur aussi du plan d'action. Il y a d'autres éléments aussi sur lesquels on travaille, peut-être pas de façon plus importante, en fait, je dirais plus pointue comme on le fait pour l'accessibilité du web, mais la question de l'urbanisme est toujours présente. La question des déplacements sécuritaires. On a vu récemment qu'une coalition de maires de l'île de Montréal voulait permettre le virage à droite sur feu rouge.
Oui.
C'est sûr que le RAM a agi là-dessus. Là, le dossier est pas mal terminé. Je dirais, il n'y a pas de mouvement à prévoir là-dessus, mais on reste vigilant. Il y a la question aussi des véhicules électriques sur lesquels on reste relativement vigilant.
Oui, parce que ça ne fait pas de bruit,
non.
Les véhicules électriques.
Effectivement, ça constitue un danger pour les personnes handicapées visuelles, mais également pour les enfants, les cyclistes, les personnes âgées. En fait, pour beaucoup de gens qui se fient au son du véhicule pour déceler s'ils sont en danger ou pas. C'est sûr que pour les personnes handicapées visuelles, ça présente un défi de plus, dans la mesure où le son du trafic est utilisé pour savoir s'il faut amorcer une traversée ou pas au coin d'une rue. Donc là, si les véhicules ne font plus de bruit, ça présente un danger, un défi supplémentaire. Donc c'est un dossier qu'on surveille. C'est sûr qu'aux États-Unis, il y a des questions d'adopter des normes par rapport à un signal sonore. On est encore un peu, je dirais pas, un peu dans le flou là-dedans, parce qu'il y a des décisions qui relèvent de plus haut que nous, bien évidemment. Mais c'est un dossier sur lequel on a une vigilance continuelle.
On parle de véhicules électriques. Effectivement, il y a plusieurs ministères à l'intérieur de cette démarche. C'est un très gros dossier.
C'est effectivement un très gros dossier.
C'est un très, très gros dossier. Vous offrez, et il nous reste à peine 2 minutes, je souhaite qu'on en parle, vous offrez un service d'information que moi je qualifie d'exceptionnel. C'est un service audio qui donne de l'information au public. Est-ce que vous pouvez nous en parler parce que c'est vraiment très bien fait?
Avec plaisir. En fait, vous parlez du Publifone,
oui,
qui est un service gratuit, accessible à tout le monde 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Là, vous l'avez dit, c'est un service audio, en fait, c'est sur une ligne téléphonique et c'est des boîtes, des boîtes vocales qui contiennent de l'information. Par exemple, de l'information sur le RAM. On a dans les rubriques du RAM, les rubriques sur les activités, sur les nouvelles de dernière minute, sur notre bulletin hebdomadaire, l'écho du RAM. Mais il y a aussi des rubriques pour les partenaires. Par exemple, la Fondation En Vue qui a sa propre rubrique et qui va faire là la lecture de son bulletin « Voyons donc ». Il y a des rubriques aussi qui appartiennent, par exemple, à la Ville de Montréal, à d'autres organismes aussi du milieu de la déficience visuelle. Pour joindre le Publifone, c'est facile. En fait, il suffit d'appeler en tout temps au 514-277-4401, qui est le numéro de téléphone du RAM, et d'appuyer sur le 4 lors du message d'accueil du RAM. Ça va vous diriger au menu principal du Publifone. Et là, pas besoin de mot de passe, pas besoin de code d'accès, comme je disais, c'est gratuit et accessible à tout le monde, pas juste aux personnes aveugles et malvoyantes.
Il nous reste 60 secondes. Quels sont les grands défis pour les prochaines années pour le RAM?
Bien, on ne se cachera pas que pour les organismes en défense collective des droits, l'enjeu du financement est un défi. Ça fait déjà plusieurs années que les organismes en défense collective des droits n'ont pas d'indexation à leurs subventions annuelles. C'est sûr que le recrutement de membres aussi et la relève, comme je le disais tantôt, bien, le membership...
Est-ce que vous sentez qu'il y a une relève?
En fait, il y a des défis à ce niveau-là, mais comme je le disais, les membres ne sont pas désengagés. Ils sont présents. Il faut aussi leur faire voir que ça passe aussi par l'implication, par exemple, au conseil d'administration, tout ça. Mais il y a quand même des défis au niveau de la relève.
Alors, si on veut rejoindre le RAM, j'imagine qu'il y a plusieurs façons de le faire. Vous pouvez nous donner des informations?
Bien, d'abord, comme je le disais tantôt, je vais vous référer à notre site web.
Oui, qui est adapté.
Oui, qui est adapté. On a un très beau site web et il est adapté. On a fait les tests, on s'est assuré qu'on donnait l'exemple. Donc, notre site web, c'est le www.raamm.org, donc le ram.org. Vous pouvez nous rejoindre par téléphone aussi au 514-277-4401. N'hésitez pas à nous envoyer des courriels aussi si vous le souhaitez. Par exemple, le courriel le plus facile que je pourrais vous donner, c'est le info@ram.org, donc raamm.org. Et vous pouvez aussi passer à nos bureaux, ça va nous faire plaisir de vous recevoir. On est ouvert du lundi au vendredi de 8h30 à 14h, pardon, à 16h30, donc à 4h30. C'est un virlande, ça. Donc, on est ouvert. Vous pouvez passer à nos bureaux au 5225 rue Berry, local 101. On est à proximité du métro Laurier.
Madame Le Tendre, merci infiniment d'être venue à notre micro. C'est vraiment intéressant. On vous souhaite longue vie et beaucoup de succès dans ce que vous entreprenez et ce que vous allez entreprendre au cours des prochaines années.
Merci beaucoup.
Merci.
et la cour me tendant ses bras de cils douce et fragile dans ses plus beaux atouts, ses yeux brillent et ses cheveux bruns.
Regard sur le monde, nous avons un volet humain. Comme ça, on pourrait l'appeler, hein, Diane.
Oui, ce serait pertinent de l'appeler comme
ça. Tout à fait. Et ce sera votre tâche de rencontrer des gens qui vivent une déficience visuelle et qui se racontent. Alors aujourd'hui, nous avons de la belle visite.
Oui, j'ai le bonheur. En fait, nous avons le bonheur, Michel, de recevoir Madame Claudia Nigrelli. Madame Nigrelli, elle est conférencière. Elle est YouTubeuse. Et elle est également non-voyante. Bonjour, Madame Nigrelli.
Ben bonjour à vous deux.
D'abord, je suis curieuse, qu'est-ce que ça fait une YouTubeuse?
Une YouTubeuse, en fait, ça a une chaîne YouTube, donc on peut trouver sur YouTube. Et une YouTubeuse peut faire n'importe quoi, n'importe quel style de vidéo qui lui plaît. Et elle peut, donc, sur une plateforme, elle peut placer ses vidéos. Donc, sur sa chaîne, et voilà, les gens peuvent la visionner.
Donc, ça peut représenter des parutions hebdomadaires, quotidiennes?
Ça peut être, oui, ça, entre autres, aussi des recettes. Donc, les gens peuvent mettre des différentes recettes ou tout simplement, tu sais, je vous invite à faire des recherches sur YouTube quand on fait des recherches « how to » en anglais, donc « comment faire ». Des fois, il y a des gens qui mettent juste une vidéo ou il y a des gens qui mettent plusieurs vidéos comme moi. Donc, ça, on crée une chaîne de YouTube.
Alors, Claudia, vous avez perdu la vue à l'âge adulte, donc à ce moment-ci, vous êtes non-voyante.
Oui.
Et donc, c'est à 24 ans que vous avez perdu la vue. Donc, comment ça se vit, cette maladie-là, tout au long? Parce que c'est dégénératif, ce que j'ai compris.
Oui, exactement. Donc, c'est ça, juste pour corriger, j'ai été diagnostiquée à l'âge de 7 ans avec la rétinite pigmentaire. Tout au courant de ma vie, donc je perdais la vue de plus en plus et... question technique, donc j'ai été considérée cliniquement aveugle à l'âge de 24 ans. Donc c'est dans ce temps-là où est-ce que sur une échelle, on ne peut plus vraiment mettre de numéro à notre vision. Mais c'est ça. Donc, et avant tout, j'aimerais tout simplement juste ajouter que le français est ma troisième langue. Donc, je parle quatre langues, alors j'en suis désolée si je fais quelques fautes de français.
Il n'y a pas de souci, comme on dit.
C'est bon, merci.
Alors, qu'est-ce que ça a changé dans votre vie, justement?
De perdre la vue, mm-hmm. Vous voulez dire?
Oui, oui, oui. Mais ça a changé. Et non pas parler plusieurs langues. Parler.
Ben, plusieurs langues, ça m'a donné plus d'opportunités. Mm-hmm. Perdre la vue... Écoutez, c'est sûr que pour moi, c'était quelque chose dans lequel je m'habituais de plus en plus. Moi, qu'est-ce que je voyais? C'est plus les gens, comment eux autres me traitaient. Donc, quand j'avais pas de cam blanche, dans le temps où je voyais encore... les gens savaient que j'avais un handicap visuel, mais ça passait. T'sais, j'étais capable de lire, de regarder les gens dans les yeux et tout ça. C'est vraiment quand j'ai commencé à perdre la vue que les gens nous traitaient, mais me traitent un peu plus bébé, infantile, un petit peu plus... ils se rendent pas compte que je suis encore une femme entrepreneuse qui fait ces choses régulières. Donc, c'est plus ça qui a changé. Pas de mon côté, mais plus comment les gens me traitent.
Vous donnez des conférences sur différents sujets. Vous voulez nous parler des sujets que vous préférez?
Oui, effectivement. Donc, les sujets que je préfère de donner dans mes conférences, il y en a deux, en fait. Donc, il y a vraiment la persévérance, la constance, une attitude positive. Donc, ça, c'est vraiment un volet de mes conférences. Et l'autre, c'est vraiment de rentrer plus de côté émotionnel, plus le côté d'inspiration. Donc, ça va vraiment des deux côtés. Soit que c'est pour que les gens sortent de leur zone de confort et qu'ils font quelque chose, ou tout simplement juste pour inspirer une personne à poursuivre leur rêve.
Quand vous présentez ces conférences, il y a plusieurs personnes qui assistent ou encore ce sont des petits groupes privés ou comment ça fonctionne?
Non, en fait, les conférences, je fais aussi des conférences coopératives, je fais des conférences, donc des petits groupes, donc de 10, 15 personnes ou vraiment des grosses conférences, donc où est-ce qu'on peut aller jusqu'à 500 personnes qui assistent des conférences.
Comment vous est venue l'idée de donner des conférences?
L'idée est venue, en fait, moi, je partageais beaucoup mon histoire, hein, donc comme je fais aussi un peu aujourd'hui. Et c'est vraiment une entrevue spécifique que la madame qui me interviewait m'a dit « À combien de gens est-ce que tu as partagé ton histoire? » Parce que tu as une histoire qui peut vraiment inspirer beaucoup de personnes. Et c'est le moment que je me suis dit « Oh, ben j'en ai pas présenté à beaucoup. » Et on a essayé de trouver ensemble quelle serait la meilleure plateforme de moi de partager mon histoire. Donc, j'ai commencé avec des vidéos sur Facebook, encore plus d'entrevues à la radio. Mais pour moi, j'ai toujours adoré vraiment être sur un stage, de parler à des gens. Donc, pour moi, c'était vraiment la réponse, c'était d'être conférencière présenter en avant plusieurs personnes et non juste pas une ou deux personnes.
À travers toutes les conférences que vous avez présentées, est-ce qu'il y a eu des moments plus marquants, des moments significatifs que vous avez vécu?
Oh mon Dieu, oui. Oui, j'en pense tout de suite. Écoute, ma carrière comme conférencière m'a amenée à rencontrer beaucoup de personnes. Donc, une personne, Marcia Pilote, qui m'a interviewée aussi. Martin Deschamps, dans lequel j'ai eu la chance d'être à ses côtés pour une conférence. Moi, qu'est-ce qui m'a marqué en plus de tout ça, c'est quand un parent est venu me voir à la fin d'une conférence. Il m'a dit, écoutez, j'ai un enfant handicapé et qu'est-ce que tu as dit dans ta conférence? La façon comment tu m'as fait sentir bien et que j'étais pas seule, ça m'a aidée. Et aussi, dernièrement, j'ai une jeune de 18 ans, donc lors de ma conférence à Saint-Roch-de-Lachigan, la jeune fille, elle est aussi handicapée visuelle. Et à la fin, elle m'a dit « C'est fantastique, je peux finalement me comparer à quelqu'un qui a justement poursuivi dans sa vie à réaliser ses rêves et tu me donnes l'espoir de continuer. » Donc pour moi, c'est ça mes moments mémorables dans ma carrière comme conférencière.
Vous avez comme phrase type « garder la tête haute et ne jamais baisser les bras ». Est-ce que vous estimez que ça vous représente?
Tout à fait, mon Dieu, comment vous avez deviné? Donc oui, garder la tête haute et ne jamais baisser les bras. Quand je cherchais un titre pour ma conférence, c'est vraiment ça qui me définit le plus. Garder la tête haute, jamais baisser les bras, ben, ça veut tout simplement essayer de trouver le positif dans qu'est-ce que vous faites dans la vie, de toujours, même si c'est quelque chose qui se passe de pas bien, il y a un côté positif à tout ça et de vraiment continuer avec la persévérance. Hein, jamais baisser les bras, c'est la persévérance quand on pense à ça. Alors, c'est tout simplement de continuer. Puis à un moment donné, ben, vous allez voir la petite lumière au bout du tunnel, comme on dit.
Alors, on va faire une petite pause, ma chère Diane et Madame Nigrelli. On va faire une petite pause musicale et on est de retour tout de suite après avec notre invité.
The girl in the other room, she knows by now there's something in all of her fears. Now she wears it threadbare. She sits on the floor, the glass pressed tight to the wall. She hears murmurs low, the paper
is peeling, her eyes staring straight at the ceiling. Maybe they're there, or maybe it's nothing at all, as she draws lipstick smears on the wall. The girl in the other room, she powders her face and stares hard into her reflection. Adjusting the strap of her gown, she tosses her tresses, her lover undresses, turning the last lamplight down. What's that voice we're hearing? We should be sleeping. Could that be so? Nothing to see, it's just a trace of what used to be. The girl in the other room, she darkens her lash and blushes. She seems to look familiar.
Ses regards sur le monde avec Diane Felice et Michel Poulain. Diane, je vous laisse poursuivre.
Claudia, vous avez parlé des conférences que vous faites en début d'émission. En fait, pas en début d'émission, mais dans notre entrevue.
Oui.
Je serais curieuse de savoir qu'est-ce que ça vous apporte à vous de donner ces conférences.
En fait, moi, ça m'apporte beaucoup. Ça m'apporte aussi la joie de savoir que j'inspire les autres, de savoir que peut-être avec un mot ou quelques mots, je suis capable de toucher quelqu'un, de vraiment voir que la personne peut continuer à faire qu'est-ce qu'il désire dans la vie, que dans la vie, il n'y a pas de limite. Et j'ai réalisé ça aussi. Le fait que moi, je parle, je ne savais pas l'ampleur de mes mots que je peux donner dans une conférence. Et ça, j'ai adoré les retours, surtout, que ça m'apporte. Donc, c'est pour ça que je continue à donner mes conférences.
Vous êtes une jeune femme très active, très dynamique. Vous avez certainement des projets d'avenir.
Oui, toujours des projets. Je suis une femme qui adore les nouveaux projets, les nouveaux défis. Donc, c'est certain que je continue toujours dans mes conférences. Donc, ça, c'est je planifie toujours des conférences à venir. Ma chaîne YouTube, ça grandit de plus en plus. Alors ça, je suis contente. Et dernièrement, j'ai aussi eu la chance, donc avec Frédéric Charpentier et Jocelyn Pinet, qui ont commencé une entreprise qui s'appelle Vision d'art. Donc, eux autres, c'est vraiment, ils donnent la chance donc aux personnes handicapées visuelles de vraiment commencer un emploi. Donc, on fait vraiment la consolidation d'équipes dans les entreprises et c'est vraiment les gens handicapés visuels qui sont formés pour donner cette consolidation d'équipes dans les entreprises. Donc, moi, j'adore ça, être avec eux et ça m'apporte énormément aussi parce que ça donne une opportunité aux gens handicapés visuels d'avoir un emploi. Donc, ça, c'était très important.
Vous êtes animatrice?
Je suis animatrice, effectivement, pour eux, donc pour Vision d'or, où est-ce qu'on se déplace dans les entreprises et on fait la consolidation d'équipes. Donc, c'est vraiment différent comme on fait. Donc, c'est vraiment à l'aveugle.
Donc, c'est le cas de le dire.
Oui, donc les gens sont avec un bandeau sur les yeux. Donc, c'est pas nécessairement de vivre la réalité d'une non-voyante, mais c'est plus de leur montrer différentes façons de travailler ensemble. Donc, moi, toute ma vie, j'ai eu à m'adapter. Hein, on s'entend, je vois pas ou je voyais presque pas. Alors, dans la vie, peu importe qu'est-ce que je faisais, ben, fallait que je sois plus attentive, plus à l'écoute. Et c'est ça vraiment qu'on veut amener dans les entreprises. On parle, mettons, des banques, peu importe, où est-ce que les gens doivent travailler ensemble. Mais c'est d'enlever la vue pour un certain moment pour, évidemment, voir autrement.
Quels sont les commentaires que les gens vous disent à la fin de la journée?
Écoutez, les commentaires, c'est des commentaires très qu'on est habitué à en entendre, que ça leur apporte énormément, qu'ils ne savaient pas, que juste en enlevant la vue, tu sais, des fois, quand on pense à des entreprises, on pense énormément, bon, la personne ressources humaines ne va pas nécessairement avoir une complicité, on va dire, avec le concierge, tandis que maintenant, ils sont obligés à travailler ensemble. Et aussi sans la vue. Donc, il faut qu'ils trouvent d'autres moyens pour parler. Puis souvent, ils nous disent, vous savez, c'est drôle, on ne se parle jamais en entreprise, mais ici, il fallait travailler main en main. Fait que c'est vraiment le commentaire qui revient souvent, c'est merci pour nous donner cette chance de travailler. Donc, on n'est pas là pour créer des amitiés. Hein. S'il y a des froids dans la compagnie, on n'est pas là pour ça, mais on est là pour vraiment qu'ils voient autrement, pour qu'ils travaillent main en main pour le moment qu'on est là.
Et vous avez, pour votre chaîne YouTube, par exemple, qu'est-ce que vous mettez sur cette chaîne-là, plus précisément?
Oui, bien, la chaîne, quand je l'ai commencée, c'était pour deux raisons. Donc, pour éduquer et d'inspirer. Donc, éduquer sur la cécité, d'enlever un petit peu les fausses impressions que les gens ont sur les gens handicapés visuels. Donc, oui, je me maquille tout seul, je me m'habille tout seul, même si je voudrais avoir une assistante 24 heures sur 24. Donc, c'est vraiment des tutoriels sur le maquillage. Et l'inspiration va venir beaucoup de mes conférences, de mes bons coups, de mes entrevues à la radio, des petits moments aussi. Je parle, que pas toutes les non-voyants ont un chien guide, puis pas toutes les non-voyants ou aveugles ont peur des lunettes foncées. C'est vraiment juste des petites questions. Je réponds à des questions que les gens, des fois, ils pensent que juste parce qu'on est handicapé visuel, c'est des stéréotypes. C'est ça le mot que je cherchais. Tu sais, vraiment des stéréotypes, j'essaie d'enlever le plus possible ça et de montrer qu'on est des gens, entre guillemets, normaux, qui ont vécu notre vie. Donc ça, c'était mes deux, c'était éduquer et d'inspirer.
Comment ça fonctionne YouTube? En fait, pas nécessairement YouTube, mais est-ce qu'on vous suit? Est-ce qu'on clique sur vous et on voit tout ce que vous faites? Comment ça fonctionne si quelqu'un est intéressé à vous suivre ou à vous regarder?
Oui, parfait. Donc, moi, je suis sur plusieurs plateformes. Comme j'ai dit tantôt, j'aime beaucoup de projets. Alors, je suis un peu partout. Vous pouvez me suivre sur Facebook si vous êtes intéressé à mes conférences sur Claudia Nigrelli Conférences. Sur Instagram, je suis @ClaudiaNigrelli. Et sur YouTube, vous avez juste à taper Claudia Nigrelli. Et il y a ma chaîne qui apparaît et vous pouvez vous abonner à ma chaîne pour voir plusieurs vidéos.
Quels sont les prochains sujets que vous aborderez en conférence?
Wow! oui, c'est sûr que je mets beaucoup de pensées. Donc, merci de poser cette question-là. Les gens sont souvent curieux. Et ça va me faire plaisir. Donc, moi, mes prochains sujets, c'est sûr, j'ai envie d'aller plus dans le personnel. Donc, dernièrement, je fais beaucoup de conférences dans les coopératives, côté coopérative. Et donc, où est-ce que je dois vraiment montrer, sortez votre zone de confort, voici les points, voici qu'est-ce qu'il faut faire. Mais j'ai goût un petit peu de rentrer, de partager ma vie personnelle de plus en plus, d'être un peu plus vulnérable envers mon audience. Ça, je pense que j'ai toujours eu le réflexe de me cacher en arrière de mon sourire. Hein. Beaucoup, ça m'a pris longtemps d'accepter ma non-voyance et je pense que j'ai le goût maintenant de vraiment pousser cette barrière-là encore plus et de parler aux personnes vraiment d'une autre perspective de ma vie, d'un autre côté de ma vie.
Quel conseil vous donnez à cette personne qui est actuellement en basse vision, qui se sent peut-être impuissant, démuni, quel est le meilleur conseil que vous pouvez lui donner?
Je l'ai vécu. Alors, sortez de l'isolement. Arrêtez de rester chez vous. Il y a des places où vous pouvez aller. Il y a des fondations, des organismes. Il y a vraiment des ressources aujourd'hui plus que jamais. En 2018, on est très chanceux. Moi, quand j'ai été diagnostiquée, il n'y avait pas tout ça. Donc, on parle de la Fondation des aveugles du Québec. Une place où est-ce que vos enfants peuvent se sentir en sécurité. Moi, j'ai été aussi membre de la Fondation, donc on fait plein d'activités différentes. Il y a l'Institut Nazareth Louis Braille. C'est la première place à cogner pour avoir toutes les ressources nécessaires. On parle de psychologues, on parle de personnes qui vont venir chez vous pour vraiment adapter votre maison. Et aussi, on parle donc de l'INCA, donc dans laquelle j'en suis fière de dire que je suis l'ambassadrice pour l'INCA, l'Institut national canadien pour les aveugles. Donc, c'est vraiment une place où est-ce qu'on fait plusieurs, juste tu sais, pour la moyenne, des gens de mon âge aussi. Hein, on parle, quand on est jeune, on va à la fondation, mais à un moment donné, on se sent encore une autre fois isolé. Et l'INCA, vraiment, ils mettent des programmes pour des gens de mon âge, donc les nouvelles mamans qui sont non-voyants, des familles qui pensent aussi avoir des enfants. Donc, vraiment, tout ce côté-là, comment se maquiller, comment s'habiller. Donc, il va y avoir des ateliers pour ça. Et je trouve que c'est important de sortir de l'isolement et d'aller justement cogner aux portes et de rencontrer des gens qui vivent des choses comme nous. Donc, des gens qui vivent la cécité ou la non-voyance. Puis écoutez, moi, ça va me faire plaisir de parler à n'importe qui. Si je peux être vraiment, tu sais, une façon de vous, pour juste quelqu'un à qui vous pouvez parler. Parce que moi, quand j'ai été diagnostiquée, j'avais personne à qui parler. Je trouvais ça important de sortir de l'isolement et d'aller voir ailleurs les ressources qui sont là pour vous.
Madame Claudia Nigrelli, vous êtes une femme absolument inspirante. Merci. Et je vous souhaite bon succès dans tous vos projets. Merci.
Bien, merci à vous.
C'est déjà tout pour la première émission de la saison de Regards sur le monde sur Canal M. Diane, on peut dire que, comment dire en québécois, ça a bien été. Hein? Alors, merci infiniment à nos invités. Vous avez fait une très belle rencontre, Mme Felici, aujourd'hui.
Oui, c'est une femme inspirante, n'est-ce pas?
Et merci beaucoup à Mme Letendre qui s'occupe du RAM. Merci à notre technicien Jean-Sébastien, aux gens de la recherche à Canal M pour votre aide. Et on aura d'autres, bien entendu, d'autres sujets la semaine prochaine. Une autre organisation qui va venir vous parler de ce qu'ils réalisent pour les gens qui sont en déficience visuelle. Et on aura également un autre pour vous, ma chère Diane, un autre témoignage.
À suivre, mon cher Michel.
Tout à fait. On vous dit donc à la semaine prochaine.